Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Trends Talk. Il est rare quand même que la Belgique ait des fleurons mondiaux dans l'industrie, en l'occurrence dans le secteur de la chaux. Il y en a deux qui sont aux deux premières places mondiales. On reçoit le représentant d'une de ces deux entreprises, Wallonne, Juan Murillo, qui est directeur général de Carmeuse pour l'Europe de l'Ouest. On va parler de cette magnifique histoire, de cette magnifique entreprise dans un deuxième temps. Mais tout d'abord, on vit quand même une période assez particulière avec une crise énergétique qui est importante. Or, vous êtes dans un secteur qui est particulièrement énergivore. Comment ça se passe pour le moment pour vous ?
Bonjour Olivier, d'abord.
Bonjour.
Merci pour cette invitation. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse réellement, à ce stade-ci, parler d'une réelle crise énergétique.
C'est vrai, parce qu'on en parle quand même beaucoup.
Je crois que c'est vrai qu'il y a différents éléments qui sont en place qui pourraient nous faire, à un certain moment, basculer dans une réelle crise énergétique. Mais que pour le moment, en tout cas, quand je compare le secteur industriel, qui est celui sur lequel nous fournissons, belge, quand je le compare avec d'autres pays européen, je constate qu'il est, de manière assez impressionnante, qu'il est en fait assez résilient.
Quand on voit… – Ça tient le cap, quoi.
– Mais écoutez, il y a un ralentissement, certainement qu'on ressent depuis la fin de l'été, mais il est, quand on le compare encore une fois à d'autres pays qui sont certainement géographiquement plus proches de l'Ukraine, qui sont plus aussi vulnérables d'un point de vue énergétique. Mais quand je compare avec les opérations que nous avons dans les pays de l'Est, par exemple en Europe, je vois que là-bas, le secteur industriel a déjà fortement ralenti depuis déjà quelques mois. Alors qu'en Belgique, on a un ralentissement, c'est vrai, mais néanmoins, on tient encore la barre, quoi.
– Et cette résilience, elle vient d'où ? Elle vient du fait que vous vous adaptez, que le marché reste solide, que…
C'est une bonne question. Je n'ai pas vraiment la réponse. Nous, évidemment, en tant que Carmeuse, on est impacté tout de même par l'augmentation des prix de l'énergie. Et ce n'est pas neuf. En réalité, ça fait déjà 18 mois qu'on a constaté une augmentation importante des prix de l'énergie. Vous savez, nous sommes une entreprise qui est très en amont, hein, dans la chaîne de valeur. Et donc, l'augmentation de ces prix de l'énergie, chez nous, ça se traduit principalement par une augmentation de nos coûts de production. Et on a vu depuis l'été 2021, donc ça fait vraiment un an et demi que cela se passe, une augmentation progressive des coûts de l'énergie. Alors, il nous a fallu, je l'avoue, quelques mois avant de prendre la mesure de ce qui se passait. On n'a pas tout de suite compris, c'est pas toujours facile de faire la part des choses. Est-ce que c'est un soubresaut ? Est-ce que ça reste ou pas ? Est-ce que ça persiste ? Et c'est vrai que pendant près de 6 mois, on a eu pas d'autre solution que de faire le gros dos, d'absorber cette hausse énergétique. Et puis, on n'a pas eu d'autre choix que de répercuter en partie cette hausse énergétique, cette hausse de coûts sur notre prix de vente. Le problème, c'est toujours le fait qu'il y a une désynchronisation temporelle, je dirais, entre le moment où ces coûts viennent impacter notre compte de résultat et alors le timing de révision et d'ajustement de nos conditions de vente. Mais donc, pour le moment, évidemment, on a une situation qui, au fur et à mesure du temps, s'est renforcée. L'inflation des prix de l'énergie s'est progressivement transférée au reste de l'économie. Notamment, on le voit dans les salaires via l'indexation. Mais je le répète, la Belgique est étonnamment résiliente pour le moment.
Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'imagine que ça fait partie aussi de la capacité qu'on a justement à s'adapter, à accepter peut-être le fait d'intégrer ça dans les prix. Jusqu'où ça peut tenir ça ? Est-ce que par exemple pour 2023 vous êtes inquiet ou bien c'est pas… Évidemment, on verra comment les choses évoluent. Hein, oui. Mais est-ce qu'il y a une petite lumière rouge qui s'allume malgré tout ?
Alors… Je crois que le sentiment qui prévaut pour le moment, c'est plus que de l'inquiétude, c'est vraiment de l'incertitude. C'est pas nouveau, on est dans un contexte qui déjà depuis quelques temps, voire quelques années, est, je dirais, durablement volatile. Et donc, comme je le disais, d'un côté, on a toute une série d'éléments. Le prix de l'énergie en est certainement un, qui sont des éléments qu'on doit garder à l'œil et qui peuvent nous faire basculer dans une véritable crise énergétique. Mais d'un autre côté, comme je le dis, on a, je crois, en tout cas un secteur industriel, moi je me concentre là-dessus puisque c'est celui sur lequel on opère, qui en Belgique est relativement résilient, comme je le disais. Et finalement, quand on regarde l'année 2023, en ce qui nous concerne, on essaye davantage de travailler sous forme de scénario. Je crois que travailler comme on a pu le faire dans le passé, en imaginant qu'on est dans un contexte de business as usual et faire des analyses de forecasting classiques, je crois que ce n'est plus vraiment adapté à notre environnement. Quand on fait ce genre d'analyse, on a beau mettre des gens très intelligents et très compétents autour d'une table, à la fin, vous êtes sûr que d'une seule chose, c'est ce que vous avez prévu, vous êtes certain que ça ne va pas se réaliser parfaitement. Alors, quand on est dans un environnement plus ou moins stable, on peut espérer qu'on ne pas tomber trop loin de la réalité, mais quand on a une équation avec tellement d'inconnus, difficile de prendre en compte tout ce qui pourrait éventuellement se passer. Et donc, je crois que notre responsabilité en tant que manager, c'est d'abord de mettre en place une organisation suffisamment agile qu'elle puisse être capable de si vous voulez, capter rapidement des signaux de changement de conjoncture, et puis surtout d'avoir une organisation qui va pouvoir réagir et s'ajuster de manière opérationnelle, stratégique et commerciale à ces changements de conjoncture. Et donc en termes d'analyse, on privilégie beaucoup plus pour le moment une analyse par scénario. Quand on regarde les périodes qui viennent, on va se demander plutôt mais qu'est-ce qu'il se passerait si tel événement survenait, si tel marché commençait à ralentir, eh bien, quelles actions devrions-nous entreprendre, pardon, eh bien, pour garantir la continuité de nos opérations. Donc, ça, c'est un peu la manière dont l'état d'esprit dans lequel on est pour parer un peu à ce contexte volatile, quoi.
Et est-ce que c'est aussi une opportunité? Alors, on en parlera plus tard, mais quelque part, ce moment, il rejoint une transition plus profonde qui est le changement nécessaire pour répondre aux défis climatiques, à la décarbonation de la société, etc. Autant de choses pour lesquelles une entreprise comme la vôtre auxquelles une entreprise comme la vôtre se prépare. Enfin, j'imagine que ça rejoint un peu ça, évidemment dans un instant plus rapide, mais
oui, en effet. Donc, c'est vrai que à l'heure actuelle, le monde en général, l'industrie en particulier, arrive certainement à un moment important où il y a toute une série de défis qui surgissent devant nous, des défis importants, complexes, et qui demandent une approche volontariste des choses. Et en effet, chez Carmeuse, on est clairement on se veut en tout cas être une entreprise responsable, et on est clairement on prend la mesure de nos responsabilités et de ce qu'on doit faire.
– Et chercher des solutions, enfin…
– Oui, bien sûr.
– Qui sont déjà en cours pour certaines, d'autres qui arriveront.
– Tout à fait, et donc vous parliez de hausse des coûts de l'énergie et de cette possibilité qu'on bascule dans un environnement de crise. Je crois que dernièrement, vous savez, les prix ont fortement augmenté jusqu'à l'été, ils sont un peu en train de redescendre, même s'ils restent encore historiquement très élevés. Je pense que ces dernières semaines, les autorités, aussi bien au niveau régional, fédéral, que les autorités européennes ont pris la mesure de ce qui pouvait se passer. Et je crois que les mesures qui ont été décidées et qui devraient être mises en œuvre sont des justes réponses, en tout cas à l'urgence. Mais pour rejoindre votre point, je crois aussi qu'il est important que malgré la situation qui pourrait être compliquée, on n'oublie pas aussi ces défis de long terme et qu'on puisse également continuer à investir, parce que ces défis ne disparaîtront pas. Ils sont toujours là, au contraire, exactement.
– Ça montre sans doute leur importance d'autant plus.
– Tout à fait, et de notre point de vue, en tant qu'industriel, en tout cas, ce que nous avons besoin, vous parliez, en tout cas c'est comme ça que je l'ai saisi, de transition durable. Mmh. Ben, cette transition durable, elle va demander en effet des investissements, elle va demander également de l'énergie. Nous avons besoin, au niveau du secteur industriel, d'un accès à de l'énergie verte, en abondance, et aussi à un prix abordable. Nous avons besoin de réglementations stables et nous avons besoin aussi de la mise en place d'une infrastructure. Je pense à une infrastructure qui va permettre de séquestrer notamment le dioxyde de carbone. Tout ça sont, tous ces éléments sont des choses où on voit que les autorités compétentes sont en train de bouger, de prendre des actions. Donc les choses avancent dans le bon sens. Évidemment, on peut se demander, on peut dire, tiens, est-ce que ça avance à l'allure à laquelle on voudrait, mais en tout cas, ça avance dans le bon sens.
D'ailleurs, si je ne m'abuse, on demande chaque semaine à notre invité s'il a un fait économique qui l'a marqué cette semaine-ci. Si je ne me trompe pas, chez vous, il y a un petit regard vers Charles Melchek, où se réunissent pour le moment justement nos responsables politiques et autres pour évoquer l'avenir de la planète et les enjeux climatiques.
Oui, tout à fait. Voilà, je ne sais pas s'il faut le qualifier de fait économique, mais en tout cas, tôt ou tard, ça aura un impact sur notre vie et sur l'économie. En effet, la COP27 est un événement important et j'ai été content de voir qu'un certain nombre de pays, dont on n'envisageait peut-être pas qu'ils puissent avancer en ce sens, ont annoncé des engagements ambitieux et encourageants. Je pense à la Chine, à l'Inde ou même au Brésil, qui s'est engagé sur des mesures.
Et qui est revenu dans le parcours, quelque part aussi. Donc tout à fait. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, ouais. C'est vrai que pour un industriel, c'est important des rendez-vous comme ça. Enfin, ça fixe un cap, ça montre des engagements. Vous êtes pleinement en phase avec ça, en fait.
Bah oui, tout à fait. Je crois que tout le monde l'est. Hein. De toute façon, c'est un défi commun, un effort commun dans lequel. Nous, Carmeuse, voulons modestement, à notre niveau, en tant qu'entrepreneur.
Qui vous passionne en plus, si je ne me trompe pas, franchement. Ce qui vous passionne en plus, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
C'est un vrai défi intéressant, quoi, aussi.
Tout à fait. C'est un défi intéressant dans lequel, en tant que Carmeuse, nous pouvons faire partie de la solution. Et donc, en effet, c'est assez excitant de travailler là-dessus, d'avoir cette perspective.
Alors, je l'ai dit, Carmeuse, c'est un fleuron, franchement, c'est une fierté wallonne, hein, on peut le dire. Vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui? Vous êtes un leader mondial, ça, on est d'accord?
Oui, tout à fait. Je pense que, alors c'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'en effet, ça peut être un motif de fierté, vous savez.
– Je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit.
– Voilà, moi je manque peut-être d'objectivité, mais en effet, ça fait déjà 18 ans que je travaille chez Carmeuse. C'est une société dans laquelle je me retrouve beaucoup, c'est une société qui a une identité forte, des valeurs qui sont réelles, qui sont incarnées, la principale étant le long terme. On est une entreprise
qui… – C'est une histoire, hein. Vous êtes né en 1860, c'est ça l'entreprise. –
Tout à fait,
hein,
l'entreprise a maintenant 162 ans. Elle est née en province de Liège, il y a maintenant donc plus d'un siècle et demi. C'est une entreprise qui s'est ouverte progressivement à l'international. Je pense que nous sommes présents de manière opérationnelle, c'est-à-dire avec des usines dans plus ou moins 25 pays sur les 5 continents.
Pour les États-Unis et le Canada massivement, si je ne m'abuse. Hein, donc,
Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est une entreprise qui reste une entreprise à visage humain, une entreprise dans laquelle l'individu est au centre de nos priorités.
– Et qui reste ancrée dans le local aussi, en fait, hein, notamment en Wallonie.
Mais... – Tout à fait. Tout à fait. Le centre de décision est en Wallonie. Et finalement, c'est une entreprise qui… est à la fois, je dis pour rire parfois que nous ne pratiquons pas le plus vieux métier du monde, mais que c'est un vieux métier quand même. La chaux, elle est produite depuis en fait des millénaires. J'ai quand même la faiblesse de croire que nous la produisons de manière plus qualitative et plus efficace que ne le faisaient nos ancêtres. Mais tout en faisant un vieux métier, nous sommes néanmoins tournés vers l'avenir avec des projets importants qui doivent faire en sorte que nous contribuions à améliorer le monde qui nous entoure. Et alors, un des motifs de fierté quand on travaille chez Carmeuse, c'est aussi de voir, et ça, on ne le sait souvent pas, de voir à quel point nos produits font partie du quotidien.
Oui, en fait, ça a des applications dans plein de domaines.
En effet.
Dans certains auxquels on ne pense pas.
Tout à fait.
Moi, j'y pense souvent parce que c'était ce qui permettait de marquer les lignes dans les stades de foot. Hein. Mais c'est fini, ça, je crois. Hein.
Alors, il y a encore des terrains en gazon où je pense qu'on utilise, ça s'appelle le footcal. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de terrains synthétiques.
Mais c'est anecdotique,
maintenant.
Ça, pardon.
Mais en effet, qu'on produise de l'acier, du papier, du verre, la chaux.
L'agroalimentaire, il y a des choses dans l'agroalimentaire.
Voilà, le traitement des eaux, dépollution des fumées industrielles ou des fumées des incinérateurs, le traitement des eaux usées, l'amendement des sols, la construction. En réalité, à peu près tout ce qui nous entoure et tout ce que vous avez touché depuis que vous êtes levé ce matin a probablement vu du calcaire ou de la chaux. Et donc on retrouve en fait nos produits de manière indirecte, certes, mais nos produits quand même dans absolument tout ou quasiment tous les éléments qui composent notre quotidien en fait.
Et donc c'est une entreprise familiale qui va bientôt transmettre le flambeau, enfin c'est officiel, donc on peut en parler à celui qui était manager de l'année de Trends Tendance, donc je peux en parler, Sébastien Dessoigne, c'est ça, qui va reprendre, qui est déjà présent, mais qui j'imagine sera opérationnel peut-être au printemps ou quelque chose comme ça. Mais comment ça se passe? Ça veut dire que c'est un virage important, que c'est un moment où l'entreprise quoi, se réinvente ou explore de nouveaux terrains? Comment vous caractériseriez le moment?
Alors, en effet, donc vous êtes bien informé.
Bon, c'était public, hein, donc je ne trahis rien.
Sébastien Dessoigne va nous rejoindre d'ici peu, je pense. Je crois que c'est quelqu'un de qualité. Vous parliez à l'imparfait, mais je pense qu'il est toujours manager de l'année. Et le fait qu'il le soit est certainement, un élément qui témoigne justement de sa qualité.
C'est du mercato brûlant dans l'année, c'est vrai.
Voilà. Et bon, on va lui laisser le temps d'arriver. On verra ce qu'il décidera de faire. Mais voilà, nous sommes, je vous le confirme, un groupe qui reste ambitieux et je pense qu'on a les moyens de nos ambitions.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a dit, c'est un métier qui se réinvente, c'est-à-dire qu'il faut quelque part intégrer cette dimension de transition énergétique, mais aussi plus largement la question de la décarbonation. J'imagine qu'elle est importante pour une industrie comme la vôtre. Donc ça veut dire que c'est à la fois veiller à ce que ce métier continue à se développer et en même temps en intégrant toutes ces contraintes pour en faire des opportunités. Je résume ça bien?
Exactement. Je crois que vous avez raison, Olivier. Quand on a un défi, il y a un risque, mais il y a toujours une opportunité. Ici, on a un défi important et une opportunité tout aussi importante. Donc, notre objectif, qui est aligné sur les objectifs plus larges, notamment les objectifs européens, c'est d'être neutre en carbone d'ici à 2050. Et pour y parvenir, nous avons défini toute une série d'actions. Nous voulons travailler évidemment sur l'efficacité énergétique de nos installations, sur une meilleure utilisation et une utilisation de combustibles différents, sur la diminution de l'empreinte carbone de nos produits, pour nous et pour nos clients, et aussi sur des projets un peu plus disruptifs qui doivent permettre la séquestration, voire la séquestration et l'utilisation du CO2. Nous mobilisons énormément de ressources pour le moment sur ces projets-là. Ils sont pour la plupart encore maintenant à des stades qui ne sont pas suffisamment avancés que pour que je puisse en parler de manière tangible aujourd'hui. Je serais ravi d'ici quelques mois si, si ça se présente de venir vous expliquer ce qu'il en retourne. Pour le moment, le projet le plus novateur et le plus abouti sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est un projet en partenariat avec John Cockerill et Engie. Et ça, déjà, je trouve que c'est un message important. Je crois que quand on prend la mesure du défi qui s'offre devant nous, un premier réflexe pourrait être de se dire « mais mon Dieu, par quel bout je le prends. Et je crois que c'est important dans ces cas-là de se dire, je cherche de l'aide, j'essaie de mettre en commun certaines ressources pour y parvenir.
Et donc, on va travailler ensemble, ce n'est pas des acteurs, c'est des acteurs importants. Donc
c'est,
ça
des
veut
acteurs,
dire que...
c'est des acteurs importants, c'est des acteurs belges, fortement ancrés en Wallonie et qui ont une forte expertise. Le projet consiste en fait à mettre en œuvre une solution industrielle pour produire du gaz naturel de synthèse en combinant des molécules d'hydrogène et des molécules de CO2, donc pour produire ce qu'on appelle de l'iméthane, en fait. Donc c'est du gaz naturel qui peut être réutilisé sans aucun investissement, c'est-à-dire sur les infrastructures déjà existantes, pour des applications notamment industrielles, et qui permet de construire autour de cette usine, en fait, un espèce d'écosystème qui pourrait alimenter les usines de la région, qui pourrait pourvoir les habitations, jusqu'à 10 000 habitations en chauffage, et qui permet ainsi de réduire, quand on regarde, quand on fait la comparaison entre un système intégré et un système intégré tel que nous le proposons et un système tel qu'il est aujourd'hui, pour les mêmes niveaux de production, une diminution de près de 70% des émissions de CO2. Ça, c'est un projet qui est relativement mature, et c'est ce qu'on appelle le Carbon Capture and Utilization.
Oui, voilà. Donc ça montre qu'il y a aussi de l'innovation qui peut répondre à l'enjeu, en fait. Hein.
Tout à fait. Donc, en effet, nous continuons à investir. De manière générale, en Wallonie, nous investissons depuis toujours, en fait. Et rien que sur ces dernières années, nous avons investi près de 150 millions dans toute une série de rénovations d'installations, mais aussi pour promouvoir des produits plus innovants, comme je le disais, qui permettent de réduire l'empreinte carbone de ces produits pour nous et pour nos clients.
Encore une petite interruption qui n'est pas une interruption pour nous. C'est le week-end, les téléspectateurs vont peut-être profiter d'un moment culturel. Est-ce qu'il y a des choses que vous leur conseilleriez ?
Alors, je vais m'aventurer à faire, un conseil à l'aveugle, parce que je vais juste partager deux envies que j'ai, mais que je n'ai pas encore réalisées. J'essaye de temps en temps d'avoir des activités familiales, parce que la semaine, c'est pas toujours facile. Et donc, il y a deux expositions où j'ai assez envie d'aller en famille. La première, c'est cette exposition à Bruxelles dont le titre est Art of Bricks, qui est cette exposition de cet artiste américain qui s'appelle Nathan Sowaya, qui est un ancien employé de chez Lego, passionné de Lego, qui a tout quitté pour devenir artiste finalement et qui fait des œuvres d'art construites en Lego. Voilà, je pense que ce peut être une activité à la fois ludique, intéressante et artistique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, j'ai envie, et j'espère que d'ici à la fin de l'année, je pourrai le faire, d'aller voir une expo à Liège qui s'appelle « I Love Japan ». Alors, l'histoire derrière cette visite programmée, c'est que j'aime beaucoup le Japon, c'est un pays qui me fascine, mais c'est un pays où je n'ai jamais eu la chance d'aller. J'avais prévu d'y aller en avril, pendant les vacances de Pâques 2020.
Je vois bien.
Voilà. Et donc, c'était
pandémie, pas possible.
Voilà, exactement. J'espère néanmoins que j'aurai l'occasion d'aller jusqu'à Liège.
Alors, vous êtes aussi en marge, j'allais dire, ou à côté de vos activités industrielles, mais c'est complémentaire aussi, vous êtes membre du bureau de l'Union Wallonne des Entreprises, je ne me trompe pas. Ça veut dire que c'est aussi une conviction selon laquelle vous vous dites que l'avenir de la Wallonie est quelque chose sur lequel le milieu économique, les patrons, les entreprises wallonnes doivent s'investir. C'est cette conviction-là aussi qui vous habite ?
Alors, juste une petite précision. Je ne suis pas membre du bureau, je suis membre du conseil d'administration.
Pardon.
Voilà.
Mais ça ne change pas la question.
Ça ne change pas la question, j'imagine. Écoutez, Carmeuse, je vous l'ai dit, c'est une société belge à Wallonne. Le centre de décision est en Wallonie et va le rester. Et nous avons une activité qui est extrêmement intégrée dans le tissu local. Vous savez, quand on commence à opérer dans un endroit, en général, on y est pour des dizaines d'années. Et donc, pendant tout ce temps-là, on est, par la force des choses, en contact continu avec toutes les parties prenantes, que ce soit des clients, des fournisseurs, des riverains, des autorités locales, communales, des autorités régionales. Et donc, nous faisons partie intégrante, en réalité, de ce tissu local. Et nous comptons rester en Wallonie. Et donc, pour nous, c'est important, évidemment, à notre niveau, en tant qu'entrepreneur, de jouer notre rôle, au même titre que d'autres joueront le leur, pour amener notre modeste contribution au développement de la région.
– Et comment vous le regardez, ce développement? Parce que parfois, on entend tout, c'est-à-dire que c'est une région, alors c'est l'aspect budgétaire, ça, mais qui n'est pas dans les situations les plus heureuses. On critique parfois la culture qui prévaut en Wallonie, qui n'est pas assez tournée vers l'esprit d'entreprise. Est-ce que vous avez parfois mal à votre Wallonie quand vous entendez tout ça? Ou bien vous dites que c'est une caricature?
Alors, moi, la Wallonie, je trouve que c'est une région fantastique où il fait bon vivre, une région qui est, personnellement, je trouve magnifique, peuplée de gens extrêmement attachants, et je suis très heureux d'y travailler. C'est une région qui a beaucoup d'atouts. Citons simplement l'infrastructure, la qualité de ses universités et de sa main-d'œuvre, les ressources ou même les infrastructures, mais c'est vrai qu'à côté de ça, c'est une région qui souffre d'une certaine complexité et où il n'est pas toujours facile et rapide de réformer. Et tout ça dans un contexte où c'est vrai que la Wallonie doit se redéployer, faire face à des défis importants. Vous avez évoqué le financement. On a évoqué un peu plus tôt le défi environnemental. Et donc, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, chaque personne, chaque partenaire, chaque partie, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit les entreprises, les autorités, l'administration, chacun doit jouer son rôle. Et même, c'est vrai que si on a peut-être un peu tous notre perspective et qu'on n'est pas complètement aligné sur tous les sujets, je pense qu'en réalité, nos points communs sont plus nombreux que nos divergences et que, vu le contexte, une union sacrée pourrait émerger et nous serons prêts, bien évidemment, à amener notre pierre à l'édifice. –
Ça veut dire que vous dites qu'on est peut-être à un moment clé, à un moment charnière, qu'il y a peut-être un déclic, peut-être justement le fait, ce que je disais, qu'il y avait ce discours parfois un peu critique, parfois bon, on a eu des discussions sur la stratégie de relance, mais en même temps c'est l'urgence. Est-ce que tout ça fait que peut-être on serait à un moment important pour l'avenir de la Wallonie? C'est votre sentiment parfois ?–
Je l'espère en tout cas, voilà, je ne peux pas vraiment en dire plus.
En tout cas, à titre personnel, vous, c'est quelque chose sur lequel vous dites, à mon niveau de Carmeuse, à mon niveau de l'Union Wallonne des entreprises, c'est une conviction que j'ai envie de porter. Quoi.
Je pense que chacun a son rôle à jouer et les entreprises ont certainement également leur contribution, fût-elle modeste, à amener dans le développement de la région dans laquelle elles évoluent. Et donc, j'espère en effet que ça pourra se faire.
– Et qu'on profitera peut-être des opportunités. Enfin, parfois, on parle justement d'une Wallonie qui pourrait être une Wallonie fer de lance de la transition, par exemple. Ça vous parle, j'imagine.
– Oui, tout à fait. J'évoquais tout à l'heure le projet que nous appelons le projet Columbus, en partenariat avec Engie et John Cochrane. –
Oui, c'est un bel exemple de ça, peut-être.
– Voilà, ça, c'est un bel exemple. C'est un projet qui… En fait, les technologies sont déjà relativement matures, mais qui ne nécessiteraient pas énormément de temps pour une mise en œuvre à l'échelle, et qui pourrait, en effet, faire de la Wallonie un modèle, un pionnier, une référence dans ce type de projet, qui, en fait, pourrait être répliqué dans d'autres endroits, et peut-être à plus grande échelle.
Voilà, comme Carmeuse le fait avec la chaux, finalement. Hein, c'est un peu ça, devenir un fleuron mondial dans un domaine, ou en tout cas une inspiration pour d'autres. Quoi. Ben, merci beaucoup, Juan Merio, pour ce petit voyage à la fois dans le temps d'une entreprise qui a plus d'un siècle et demi d'existence, et en même temps dans l'avenir, vu qu'on a beaucoup parlé de ces transitions qui nous occupent. Merci à vous, et merci à tous d'avoir suivi cette édition de Trendstalk. Avec plaisir la semaine prochaine. Merci beaucoup. We'll be right back.